20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous et bonne année. Le journal du classique fait sa rentrée ce soir et c'est avec Hervé Niquet que nous passerons un moment. Hervé Niquet avec lequel nous évoquerons quelques grandes tragédies lyriques. Médée de Charpentier dont il nous livre cette semaine sa lecture au disque. Et puis Iphigénie en Tauride de Desmarets et Campra qu'il dirigera demain soir au Théâtre des Champs-Élysées. Juste avant, comme nous le ferons tout au long de cette semaine d'ailleurs, je vous emmènerai dans les coulisses de l'Opéra de Paris visiter l'un de ses ateliers de décor. Mais pour commencer, notre petit panorama de l'actualité musicale. Cette année 2024 qui débute à peine célébrera plusieurs compositeurs, Fauré notamment, disparu il y a 100 ans, mais aussi Schoenberg dont on fêtera les 150 ans de la naissance, et cela dès cette semaine à la Philharmonie de Paris avec une création tout à fait originale que l'on doit au cinéaste Bertrand Bonello. Transfigurer 12 vies de Schoenberg, ainsi s'intitule ce spectacle, construit autour de 12 œuvres du compositeur, abordées de façon chronologique depuis La Nuit transfigurée, datant de 1890, jusqu'à son concerto pour piano de 1942, avec le chœur et l'orchestre de Paris sous la direction d'Ariane Matiak, le pianiste David Cadouche, ainsi que les comédiens Adrien Dantou et Julia Faure. Rendez-vous mardi, mercredi et jeudi à la Philharmonie de Paris, donc. En écho à l'exposition Van Gogh à Auvers-sur-Oise du musée d'Orsay, le quatuor Dutilleux donnera un concert demain à 12h30 dans l'auditorium du musée, et cela autour d'un programme absolument onirique associant des quatuors de Ravel et de Dutilleux, le fameux quatuor Ainsi la nuit, mais aussi des transcriptions du Clair de lune de Debussy et d'un extrait de Timbre, espace, mouvement de Dutilleux. Cette semaine, je vous invite donc à vous faufiler derrière les rideaux, derrière la scène de l'Opéra National de Paris, à la rencontre de ceux qui, à l'instar des chanteurs, musiciens ou metteurs en scène, contribuent à nous faire rêver, ceux qui construisent les différents éléments qui constituent les décors des grandes productions. L'occasion de découvrir ces métiers d'art qui font aussi la fierté de l'institution lyrique parisienne. Notre guide cette semaine, Alexandre Gaillard, le responsable des ateliers de décors à l'Opéra de Paris, il nous emmène tout d'abord auprès des tapissiers et des tapissières.
Ici, nous sommes dans l'atelier tapisserie, effectivement, atelier dans lequel nous réalisons des toiles pour les scènes de Bastille et de Garnier, des toiles coton, toiles à peindre. Nous avons des tulles, et puis on peut avoir des matières plus plastiques pour des effets de transparence, de jeu de lumière ou de projection. Vous avez au sol un carroyage, on appelle, donc ce seront des grands carreaux qui font 1 mètre par 1 et qui nous permettent de placer des toiles au sol. Lorsque les tapissières travaillent, on vient mettre des petites épingles tout en bord de toile et après on sert du carroyage pour placer des éléments. Donc on a de temps en temps des toiles qui peuvent être composées. Un des derniers exemples qui me vient en tête, c'est lorsque nous avons fait le rouge et le noir. Pierre Lacote voulait un rendu vitrail sur les vitraux avec de la lumière en arrière-plan. Et dans toute la partie centrale où il y avait un orgue, il y avait un jeu de transparence. Et donc, nous sommes partis d'une toile coton dans laquelle nous avons fait des inserts pour les vitraux et un grand insert de tulle dans la partie centrale pour dessiner l'orgue. Voilà, donc la tapisserie possède un savoir-faire qui nous permet de marier les matériaux, et c'est ce qui est assez complexe, le fait d'assembler des textiles différents peut rendre difficile la mise en place sur scène, en fait. Lorsqu'on a des toiles, souvent on les tend, et lorsque vous mariez une toile coton, un tulle et d'autres éléments, en fait, on peut avoir des problèmes de plis qui se baladent, choses comme ça. Alors en tapisserie, je l'ai su il n'y a pas longtemps, historiquement, en fait, il y a des tapissières et des tapissiers. En fait, les tapissières travaillent sur tout ce qui est toile, les rideaux, les toiles qu'on peut avoir tendues, et les tapissiers travaillent sur tout ce qui est mobilier. Mais dans l'atelier, bien sûr, les garçons et les filles font les deux, il n'y a pas de souci, mais j'ai appris qu'historiquement, en fait, les métiers étaient genrés dans la tapisserie.
Oh,
Anna Netrebko dans un air d'Adriana Lecouvreur. Anna Netrebko qui chantera justement le rôle titre de cet opéra de Francesco Cilea dans la mise en scène de David Madvikar. C'est la première production lyrique de l'année de l'Opéra National de Paris à découvrir dès le 16 janvier.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Il dirigeait il y a quelques jours à peine le concert du Nouvel An de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse et il sera demain au Théâtre des Champs-Élysées avec son concert spirituel pour une version de concert d'Iphigénie en Tauride de Desmarais et Campra, tandis que paraît cette semaine son enregistrement de Médée de Charpentier chez Alpha. Hervé Niquet est avec nous ce soir, premier invité de l'année du Journal du Classique. Bonsoir et bonne année.
Bonne année, quel honneur d'être le premier, dites-moi.
Un vrai plaisir. Vous n'avez pas fait de pause, vous avez dirigé pendant les fêtes, vous avez, j'imagine, enchaîné avec les répétitions d'Iphigénie en Tauride. Vous êtes encore porté par un élan.
On est toujours en plein élan. On n'a pas vraiment de temps pour se reposer. J'ai hâte aux vacances. Mais c'est vrai que quand on pense à la période du Covid, on est ravis d'avoir énormément de travail. Faut pas se le cacher.
Alors, on connaît, Hervé Niquet, la versatilité de votre répertoire. À Toulouse, vous avez dirigé des œuvres plutôt légères, d'opérettes notamment. Vous dirigerez demain une tragédie lyrique, comme vous en avez autant l'habitude. Est-ce qu'on est le même? Est-ce que l'on passe facilement de l'opérette à la tragédie lyrique? Est-ce que les réflexes de chef sont les mêmes?
Oui. D'abord, c'est un métier. Ensuite, on a, presque les mêmes musiciens en face. Certes, pas la même culture pour certains répertoires, mais c'est la même technique de travail. C'est des gens qu'il faut faire travailler. Ils sont toujours à l'écoute. C'est des gens qui sont très, très en demande, en réalité. Et à partir du moment où on travaille techniquement, où on a des propositions, où on sait où on va et qu'ils voient où vous les emmenez, c'est le même travail. Et on fait quelque chose ensemble. Voilà. Moi, je trouve que c'est toujours le même métier.
Alors, Médée, Iphigénie en Tauride, on pourrait citer également Ariane et Bacchus de Marin Marais, précédent enregistrement avec le concert spirituel. C'est le répertoire de l'Académie royale de musique de l'après-Lully. C'est une période de transition particulière.
Alors, je ne sais pas si on peut parler d'une période de transition, parce que c'est sûr que Lully est mort subitement et qu'il a fallu remplir les salles de l'Académie royale de musique. Son successeur, qui n'était pas très bon économiste commercial, il a un peu perdu beaucoup d'argent et il s'est dit « Tiens, je vais faire appel à Desmarais ». Parce que il était très en vogue à ce moment. Et puis Desmarais a eu des problèmes, il s'est marié avec une fille dont le père n'était pas d'accord, il a dû s'exiler de France, et Louis XIV l'a banni de France, donc il a même été pendu en place de grève. Bon, alors Desmarais s'est désintéressé du projet qu'il lui avait donné, qui était Iphigénie en Tauride. Campra a repris ça, et ça a été un succès énorme jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ça a été l'une des œuvres les plus jouées à l'Académie royale de musique. Alors, l'après Lully, est-ce qu'on peut dire que c'était une succession? Peut-être c'était bien qu'il arrête, qu'il ait eu la bonne idée de mourir pour laisser la place à beaucoup d'autres. Et ça a été, je pense, plus qu'un intérim, ça a été une nouvelle ère.
Donc, il y a eu Iphigénie en Tauride, mais quelques années avant, Médée de Charpentier, qui n'a pas connu le même succès qu'Iphigénie en Tauride, qui a été même un bel échec.
Mais de toute façon, je pense sincèrement que Charpentier avait fait ça pour aller, pas pour aller à la catastrophe, mais il savait que ça ne serait pas apprécié comme ça devait l'être, parce que c'était une caricature, c'était un dessin, un gros trait de la société de l'époque. C'est-à-dire, on allait écouter cet opéra pour détester Médée, et en fin de compte, c'était la seule qui était aimable et respectable. Les autres n'étaient que des traîtres, des menteurs, des dissimulateurs. Tous les gens sont horribles, la princesse, le roi, l'amoureuse est atroce. Et donc, on va pas à l'opéra pour aimer une femme qui tue ses enfants. Eh ben, c'est la seule respectable. Et je pense que c'est l'une des causes du désamour de Médée pour le public.
la victoire en tous lieux, faire révéler ses lois, Louis est triomphant, tout cède à sa puissance, la victoire en tous lieux, faire révéler ses lois, pour l'avoir avec nous, toujours d'intelligence, rendons-lui des honneurs, digne de sa présence. Rendons-lui des honneurs, digne des grands exploits, qui consacre le nom du plus puissant des rois.
C'est donc Médée de Charpentier que vous venez d'enregistrer, Hervé Niquet, avec votre orchestre, le concert spirituel, avec un superbe casting, entre autres Véronique Jans, que l'on écoutera tout à l'heure. Cela sort cette semaine chez Alpha. Dans quelle mesure Charpentier se distingue-t-il de Lully? Est-ce qu'il a encore des réflexes, des bases qui correspondent à la façon dont Lully a construit la tragédie lyrique? Est-ce qu'il s'en distingue?
Alors oui, le modèle qu'a fixé génialement Lully va être respecté jusque après Rameau. On le voit très bien là avec Iphigénie en Tauride, Desmarais a respecté ce cadre de Lully, Campra a respecté ce cadre de Lully, Rameau fera de même, mais ils ont chacun une personnalité extrêmement forte. Et la différence qu'il y a entre, par exemple, un Percée de Lully et Médée de Charpentier, vous êtes dans le même cadre, mais c'est d'une difficulté tout autre. Charpentier est d'une difficulté, mais affreuse. C'est un point de rupture, c'est-à-dire après, l'artiste n'a pas sa place. Il faut faire exactement ce qu'il a demandé, comme Berlioz, comme Debussy, comme Ravel. Sans ça, vous passez à côté de l'œuvre. Ils ont une personnalité très forte. C'est extrêmement écrit chez Charpentier. Et puis, ce qui fait qu'on est pris dans un puissant maelstrom pour aller jusqu'au bout de l'œuvre. On peut pas s'en échapper, quoi. Mais on sort de là épuisé, je peux vous dire.
D'autant que vous avez fait tout un travail pour revenir à la source, travailler sur les archives. Qu'est-ce que vous avez découvert, Hervé Niquet, en travaillant justement sur ces partitions originales de Médée? Déjà, c'est un opéra qu'on avait découvert à la fin du XXe siècle, donc avec lequel on a une histoire déjà assez courte.
Alors, en gros, on n'a rien découvert. Tout était sous nos yeux. Vraiment, depuis 50 ans, tout était sous nos yeux, mais on n'a pas vraiment prêté attention. Et avec Benoît Dradwicki, qui est le directeur artistique de, j'allais presque dire directeur musical du Centre de musique baroque de Versailles, il s'est dit, mais pétard, tout est là, mais appliquons-le. C'est-à-dire les effectifs précis, la disposition dans l'orchestre, la façon d'opposer les deux orchestres, c'est-à-dire que vous avez un orchestre de tutti et un orchestre de continuo qui, au lieu de s'enchevêtrer, se superposent et s'échangent. Et on l'a eu, cette expérience dans Ariane et Bacchus, on l'a dans Iphigénie, on l'a eu dans Médée. Vous avez deux équipes qui concourent pour la même course, mais pas dans la même rangée. Et ils s'unissent assez rarement, jamais pour les danses, un peu pour les chœurs et un petit peu pour les récits accompagnés. Mais à chaque fois que j'entame une marche avec l'une des équipes, l'équipe est fraîche, l'autre se repose et j'enchaîne. Et du coup, on peut avoir une puissance de feu considérable du début jusqu'à la fin.
Voilà, donc cet enregistrement de Médée qui sort ces jours-ci chez Alpha avec Véronique Gens dans le rôle titre, le rôle de cette femme à la fois bouleversante, à la fois terrible, amoureuse, humiliée, qui va donc finir par tuer ses enfants. Comment est-ce que Charpentier, il fait musicalement évoluer la psychologie de cette femme? Comment est-ce qu'il la fait basculer vers cet acte terrible?
Alors là, il faut remercier le librettiste, évidemment, les mots et la force de la rhétorique est évidemment très présente, prégnante. Mais Charpentier, au début, dresse une femme qui est, j'allais dire, presque à l'écoute et presque au service de la carrière de son amoureux. Et au fur et à mesure, et c'est aussi dans la musique, on va basculer par une prise de pouvoir de son destin. Et on voit très bien que beaucoup de récits au début, assez peu d'air, et au fur et à mesure, quand on fait l'analyse des cinq actes qui progressent, elle a de plus en plus à chanter avec l'orchestre. Et on voit déployer autour d'elle de plus en plus de sons, de plus en plus de notes, de puissance, et ça vous saute à la figure à la fin, quoi. Quand elle s'envole sur son char et sur ses dragons, on est happé par un genre de courant d'air qu'on n'a pas vu venir depuis le premier acte. C'est assez phénoménal en construction musicale.
Quel prix de mon amour, un air de Médée, au troisième acte de Médée de Charpentier, chanté par Véronique Gens, avec le concert spirituel d'Hervé Niquet. Hervé Niquet qui est notre invité ce soir sur Radio Classique. Alors on pourrait citer également le reste de la distribution, Cyril Dubois, Judith Van Van Roy, Thomas Dollier et bien d'autres. Véronique Gens et Thomas Dollier que vous retrouverez demain au Théâtre des Champs-Élysées pour cette autre tragédie lyrique, Iphigénie en Tauride. Qu'est-ce qui fait que ces chanteurs, ces merveilleux chanteurs qui vous accompagnent au ou au concert, qu'est-ce qui fait d'eux des interprètes si incarnés de la tragédie lyrique? Qu'est-ce qu'ils ont comme qualité pour porter ce genre?
D'abord, ils aiment le français. Ils aiment notre répertoire parce que c'est un gros boulot de chanter français quand même, même si on est français. Il y a vraiment un travail de chaque instant pour être compréhensible. Et puis, ce sont des gens qui sont renseignés, tout simplement. Ils ont étudié. C'est pas venu comme ça. Ils ont beaucoup appris. Ils ont beaucoup écouté. Et c'est vrai que l'équipe que Benoît Dradwicki, depuis plusieurs années, a réunie autour des projets du Centre de musique baroque de Versailles fait que ils sont devenus habitués aux conditions de ces tragédies. On sait dans quelle chausson on va poser ses pieds. Alors c'est loin d'être un chausson parce qu'il y a pas mal de chardons dedans, mais ils font ça avec plaisir. Ils ont, je peux pas dire autrement qu'ils ont un goût pour ce style, un goût pour cette dramaturgie. Mais j'avoue que souvent, vous savez, on monte ces tragédies grâce au Centre de musique baroque de Versailles. Rarement pour une fois, mais c'est quand même 3 heures de musique qu'il faut apprendre et puis qu'on redonnera probablement jamais dans sa vie. Donc, je trouve que c'est des gens qui devraient être décorés par le ministère de la Culture pour sauver régulièrement le patrimoine baroque français. Ils font don de leur temps et de leur énergie, parce qu'il ne faut pas oublier quand même, comme disait Kirite Kanawa, à chaque fois que je chante cette grande chanson, cette grande diva, à chaque fois que je chante, ma voix est comme un saucisson, à chaque fois que je chante, je coupe une tranche, au bout de la vie, il ne reste plus rien. Mais je pense que c'est vrai, ils donnent beaucoup de leur temps, de leur énergie, et c'est du temps de leur vie musicale, moi je crois qu'on peut les remercier largement.
Et puis c'est une version de concert, il n'y a pas de mise en scène, aucun artifice. Quand on dirige une version de concert, comment faire tenir en haleine un public pendant 3 heures sur des œuvres aussi puissantes? Alors ce sont des œuvres d'une grande puissance évocatrice, mais c'est aussi au chef, au musicien, de faire en sorte que, même sans décor, sans costume, le public, il rentre dans cette histoire.
Alors, il faut pas le dire trop fort, hein, mais c'est un vrai bonheur de ne pas avoir de metteur en scène hystérique, de ne pas avoir de costumier qui a pas fini le machin, de pas avoir de décorateur qui voit les trucs tomber, de pas avoir de chorégraphe et de danseur qui... Oh là là, quel bonheur! Mais alors, il faut tout faire soi-même. Ouais. Comme vous dites, il n'y a pas d'artifice. Il faut tout colorer, il faut tout architecturer, il faut tout imaginer, faire penser, mais tout est dans la musique. Et que ça soit un grand motet de musique sacrée, que l'opéra, c'est le même discours rhétorique, la même symbolique, la même organisation. Et donc là, le chef est son propre metteur en scène, décorateur, artificier, danseur, parce qu'il y a moult danse. C'est un vrai bonheur, en fin de compte.
Voilà, un bonheur à savourer demain soir au Théâtre des Champs-Élysées. Cette Iphigénie en Tauride de Desmarais et Campra, donc composée par Desmarais, complétée par Campra, qui a fait quelques raccords.
Des gros raccords.
Et ensuite, vous reprendrez une production qui a eu un grand succès, qui a déjà beaucoup tourné, ce Don Quichotte chez la Duchesse de Boismortier, mise en scène par Shirley Edino. Ce sera du 26 au 28 janvier à l'Opéra Royal de Versailles. Et ensuite, quels seront quelques-uns des moments forts de cette année 2024 pour vous, Hervé Niquet?
Eh bien, d'abord mes vacances, parce que ça fait 30 ans que je n'ai pas pris un mois de vacances. Et là, comme février était léger, eh ben, je vais prendre un mois de vacances. Vous pouvez pas imaginer ce que c'est formidable. Ça va apporter de l'énergie par la suite. Alors, après mes vacances, et ça j'y tiens, ça fait du bien quand même. Hein. Je sais pas comment vous êtes, mais moi, ça me fait du bien. On a évidemment beaucoup de projets, alors qui seront pas très baroques. On a les petites messes de Mozart qu'on doit tourner et qui ont beaucoup tourné. Il se révèle que c'est de la musique, il avait 20 ans, mais c'est absolument majeur. Tout Mozart est là. On a le Requiem de Forêt, évidemment, qui va tourner dans plusieurs pays. Et puis, je dois diriger le Tribut de Zamora à l'Opéra de Saint-Étienne, le dernier ouvrage de Charles Gounod, qui est un tube quand on fait ça avec les chanteurs, me disent « Mais pourquoi on chante pas plutôt ça plutôt que Faust ? C'est 1000 fois plus intéressant. » Donc voilà, c'est des projets assez lourds qui s'approchent. Je suis ravi d'avoir un peu de vacances avant.
Donc d'ici là, Iphigénie Antoride, demain au Théâtre des Champs-Élysées, Médée de Charpentier, cette semaine au Disque, et puis à la fin du mois de janvier, Don Quichotte chez la Duchesse de Boismortier. On va se quitter avec quelques notes légères de Don Quichotte. Merci beaucoup Hervé Niquet.
Merci Laure.
Et puis très belle année 2024 avec tous ces beaux projets.
À bientôt.
Petit extrait de Don Quichotte chez la Duchesse de Boismortier dans l'enregistrement d'Hervé Niquet avec son concert spirituel. Don Quichotte chez la Duchesse dans la pétillante production mise en scène par Shirley Edino. C'est à découvrir ou redécouvrir du 26 au 28 janvier à l'Opéra Royal de Versailles. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Amandine Legris pour la réalisation. Demain, nous serons en compagnie du compositeur Otman Loati et de la soprano Marie-Laure Garnier pour parler d'un opéra inspiré du célèbre film Les ailes du désir de Wim Wenders. Mais tout de suite, je vous laisse comme tous les soirs avec Francis Drezel. Excellente soirée à l'écoute de Radio Classique.